dans le premier voyage, on babille, on baragouine. On n'est techniquement pas au point. Parfois même, on se tait. Et si nous parlons dans nos voix, il y a plus de souffle que de mots, du grésillement des fausses notes. Et dans les voyages suivants, lorsque l'enfant en nous grandit tout en restant obstinément poète, nous gardons cette imperfection technique, nous conservons ces imprécisions profanes dans la voix. Ce qui s'affine, par contre, indubitablement, c'est le souffle lui-même. Voyager. Voyager, c'est un peu quitter un lieu, un temps, où on a baigné dans une sorte de liquide amniotique. Un bain familier où l'événement, la chose qui surprend, se fait rare. Quitter ce confort pour l'ailleurs, où les repères fondent comme neige au soleil, où les éléments, la lumière, le vent, les températures, changent. Les paysages nous enivrent, où nous heurtent, nous font perdre la tête, où les goûts, les odeurs, nous transforment autant que les rythmes, les regards, les gestes, les démarches des gens qui nous entourent. Nos contours se distendent, se distordent, s'altèrent, même si, au fond de nous, continuent à chanter les mêmes bruissements de la même rivière, continuent à se mélanger les mêmes tons, les mêmes accents, ceux que nos jeunes squelettes avaient bu. C'était à chaque vacances scolaires ou le week-end, la famille quittait la ville pour s'installer en Ardennes, à Lierneux, dans l'ancienne ferme que le grand-père avait achetée. Le grand-père, comme son propre père, était directeur de l'Institut, l'hôpital psychiatrique de Lierneux. Et il habitait dans le logement de fonction, une maison attenante au bâtiment administratif. Né sous les auspices d'une lienne ou d'une salme, comme berceau de nul éclat. Né ni Paris ni Pékin, ni Rome ni Rio, ni New York ni Nouakchott, ni bois de baobab ni de cèdre, juste petit eau, entre épicéas et mélèzes bordées de hêtres. Ce fut ça. Salme sans farniente, sans or et sans château. Ce ne fut même que salme de parenthèse, de dimanche ou de vacances, mais ce fut salme ou lienne en sourdine. Un enfant de la ville, placé sur les voies d'une éducation cadrée, dans une famille qui sait ce qui est bon. Des parents, des éducateurs, des instructeurs, il ne sait plus très bien. C'est cadré, mais c'est raide. L'enfant souffre de torticolis, de raideur aux jambes, au cœur peut-être bientôt. Il manque d'éclat de rire, ou de larmes lâchées. Il a des fourmis dans les jambes. Le week-end, il s'échappe dans les hautes herbes ondulantes au vent, au cœur de tout ce qui bouge, bruisse dans les prés, la forêt, les fagnes. Martine Massot, médecin généraliste à Lierneux et petite-fille de l'ancien directeur de l'Institut psychiatrique.
Les patients qui étaient en placement familial dans les fermes, c'était d'une part pour les insérer dans la vie quotidienne. Je crois qu'il y avait quand même une idée un peu thérapeutique nouvelle, une forme de nouvelle thérapie, d'ouverture de l'hôpital. Mais attention, on avait créé cet hôpital-là dans une région rurale loin de tout, expressément pour ne pas déranger le bon peuple, hein, surtout pas près des villes où il pouvait être dérangeant. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de créer Lierneux à Lierneux? Il y avait un hôpital qui avait ses pratiques de placement familial. Mais à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait finalement beaucoup de patients francophones qui étaient envoyés là, dans un milieu, on ne parlait même pas la même langue, et c'était très difficile. Donc, les pouvoirs publics ont décidé de créer un hôpital en région francophone, en Wallonie. Et ils ont choisi une région absolument isolée, presque déserte, loin de tout. Et c'est pour ça que c'est ici. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment loin de tout. Ça l'est encore pour certains aspects, en tout cas perçu comme ça par les pouvoirs publics, ça c'est sûr. À l'époque, les patients étaient essentiellement dans les fermes, où ils donnaient des petits coups de main en fait. Les personnes qui les hébergeaient chez eux, c'était les nourriciers. Donc ils nourrissaient, ils logeaient, ils blanchissaient les patients. Ils recevaient une somme, ils étaient un peu payés, mais dérisoire, si j'ai bien compris. C'était vraiment pas grand-chose. Mais pour certains, le dérisoire représentait quand même un apport d'argent, hein, malgré tout. Et en échange, ben, ils aidaient un peu à la ferme. Enfin, voilà, ils aidaient comme garçons de ferme, pas du tout qualifiés, et parfois un peu à côté de la question. On a déjà eu des fous rires en voyant que le patient qui était censé faire avancer la vache, on avait plutôt l'impression que c'était la vache qui faisait avancer le patient, hein.
Louis dans son bleu, cimente, monte muret, monte en ciment des bordures à l'allée, monte en ciment le tour du potager, le rectangle de cornichon, le losange de radis, cimente le long des plates-bandes, et met aussi petits pans de ciment, un peu comme ci, un peu comme ça, dans mes idées, mes paysages. Enfouis dans le ciment les silences de mes blessures, mes yeux brûlés par le polissage des grands, mais dedans le sable et son cœur qui pleure, et ça prend. Louis me touche, Louis me couvre, et je pleure aussi. Je pleure le départ de Louis, car Louis, le soir, il s'en va. Loge la nuit derrière les grands murs de l'hôpital.
C'était notre monde, on réalisait que c'était spécial quand on avait des cousins ou des amis qui venaient chez nous. Parce que nous, on n'avait pas l'impression que c'était bizarre. Alors on se disait, ah ben oui, tiens, au fond. Parce que le regard de nos amis qui étaient stupéfaits, qui étaient un peu parfois peur, on ne frappait pas. Et dans les fermes, il y avait toujours un malade, un ou plusieurs. Quand je suis venue à Lierneux, c'est-à-dire il y a 40 ans, quand je me suis installée ici, quand on a acheté la maison, nos voisins, c'était un couple de personnes pas encore très âgées, hein, ils avaient une cinquantaine d'années, c'est des gens sans enfants. Ils avaient chez eux trois patients qui allaient tous les jours à l'hôpital de jour faire les activités. Ils allaient passer la journée à l'hôpital et puis ils revenaient le soir, ils revenaient manger. Peut-être même qu'elle venait manger à midi, ça je ne sais plus très bien. Et donc, devant chez nous passaient, plusieurs fois par jour, les patients. Certains déliraient carrément, on avait des périodes où ils étaient en grande discussion tout seuls dans la rue, parfois très fâchés, parfois... Ça faisait vraiment partie du monde. On n'était pas étonnés, on y faisait à peine attention. Enfin, si, attention, oui, mais voilà, c'était vécu comme quelque chose de normal.
Dix heures, Marguerite descend aux courses, arrête toute sa rondeur et son tablier et son panier d'osier. Traîne tant qu'elle peut dans chacune de ses diphtongues et voyelles. Bonjour, déjà levé. 16 heures, Marguerite descend aux chèvres, arrête toute sa rondeur et son tablier et son panier d'osier. Traîne tant qu'elle peut dans chacune de ses diphtongues et voyelles. Bonjour, déjà levé. Aujourd'hui, Cigarette est passée dans le chemin creux. Il a stoppé son pas. Il s'est accroché des deux mains au grillage au fond du jardin et il a demandé « Cigarette, cigarette, t'as une cigarette ?» Puis « T'as été au carnaval à Verviers ?» Il dit tout le temps ça, Cigarette. C'est comme ça. On aime ça, nous, les enfants. Ça nous fait rire et ça nous rassure. Joseph et Marie habitent à côté. Marie, on la voit pas beaucoup. Elle tricote sans arrêt, paraît-il, et parle peu, vague, vague, dans l'ombre de son chignon. Ils ont des vaches et des cochons. Il y a un chien qui s'appelle Pompon. Il n'y a pas de Jésus. Leur fils, il se serait bien vu John Ford ou John Wayne. Il a vécu des jours et des jours l'hiver dans la forêt. Il y avait de la neige et du gel. Il se cachait. Les Américains ont gagné la guerre. Alors, dans sa tête, la vie s'est changée en western. Joseph, hier, dans la cour, il a coupé la tête à un poulet. Puis, il a lâché le poulet, et le poulet s'est mis à courir dans tous les sens. Je crois que nous, les enfants, on devait avoir de belles têtes d'ahuris. Ça l'a bien fait rire, Joseph. Et puis, il y avait Bébert et son béret. Il marchait nonchalant au milieu de la route, les mains jointes derrière le dos. Quand une voiture s'approchait, elle klaxonnait pour que Bébert et son grand pardessus, qui lui donnait une silhouette démesurée, libèrent la voie. Et Bébert, il se retournait et dans un grand sourire, soulevait son béret en guise de bonjour. Ensuite, il reprenait sa promenade, lente, bien campée, au milieu de la route. Et les voyages reprennent. L'enfant se voit expulsé de l'enfance et glisse d'un coup vers le pays des émois, des phéromones et des songes lascifs. Les givres s'y fondent tièdes et les secrets les bonbons fossiles incrustés dans le grès et le nougat, et les chants ka-ka qui vont sous les vaches, les buttes grasses, bouses et bousiers, le rosé des prés. Les godillots alourdis de gadou, les bottes froides, puis ce sont tumultes mutins qui sourdent dans les chemins du retour.
Là, au fond, on est les mêmes, quoi. On est des êtres humains. C'est un aspect, hein, de dire qu'on est tous, finalement, semblables. Et le rapport aux animaux, c'est évident. Le rapport des personnes de la campagne qui ont des animaux, qui ont un grand respect pour les animaux, un grand respect pour la vie en général, c'est en ça que je dis que je voudrais vivre la campagne le plus longtemps possible, parce que pour moi, c'est vital de voir le printemps chaque fois, de voir la vie, de voir pousser les plantes. Il y a quelque chose, même... Bon, je vais dire que je ne vais pas dire d'humain, mais... Il y a la vie et le respect. Finalement, les animaux, moi je suis convaincu aussi, vivent des choses. Et d'ailleurs, on est en train de découvrir beaucoup de choses au sujet des animaux. Et même la nature en général. Et donc, on revient alors à la survie de la planète, au respect de la planète, au respect de la vie en général. Voilà, la boucle est bouclée.
Au pied de minuscules rivières et de touffettes de mousse, j'invitions les saints à venir en bombance apaisée réveiller mes tempes. Le pissenlit, dans l'herbe grasse, me jetait en pâture, me roulait dans la gramine. Moi, ni adulte, ni enfant, et suaveusement paumé entre platonisme candide et pornographie verte et mûre entre deux messes. C'était en avril, dans les premiers bâillements ensoleillés du ciel. Le lait, le beurre sentaient fort. C'était une prairie derrière l'église où je couchais mes rêveries pendant la messe. Plus loin, beaucoup plus loin, dans des âges oublieux des derrières, des filigranes, des dessous, où je traînais fardeau d'adulte en herbe, aux poils doux, lorsque, sous les ponts d'une Meuse molle, de nombreuses eaux industrieuses eurent passé, lorsque, défiant le hasard et la nécessité, les phrases de plus en plus complexes des grands hommes, enfin eurent en jeu perdu toute la puissance de leur écho, un petit bruit de coulisses, forestier, perça les croûtes urbaines et le silence turgide des ciels vides. Bruire, ainsi faire renaissance. Sans netteté de contour, mais ami, sûr. Un sol famiré d'eau déridé revint, une cascade de mots courts désinvoltes et de multiples rues de mots échevelés réinventés. Ça chantait à nouveau. Dodelinant à l'aise, petites eaux d'Ardennes, ça flutillait en staccato, comme si Bac et Bacchus, sous ma cervelle de béat réhabilité, avait écrit dans le style un nouvel art du beau et du bon, avec pour matériau premier le hasard. Et ça flûtillait en staccato, comme si Bach et Bacchus, sous ma cervelle de bête nue réhabilitée, avaient écrit dans le style un nouvel art du beau et du bon, avec pour ami le hasard. Aujourd'hui, ce souffle sourd à jamais sous ma langue, c'est ça la psalme. Cela me suggère ou m'emporte, et sa psalme et sa slame dans un excès de lyrisme trouble, éructant de ci de là, mais préparant intimement sa métamorphose en un profond silence d'animal homme face à la houle sonore d'Atlantique. Voyager, c'est un peu comme quitter un lieu, un temps. On a baigné dans une sorte de liquide amniotique, un bain familier où l'événement, la chose qui surprend, se fait rare. Quitter, quitter ce confort pour l'ailleurs, où les repères fondent comme neige au soleil.